Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cogitons Science, le podcast qui décrypte les enjeux des sciences. Je m'appelle Séverine Fontaine et je suis journaliste scientifique pour Technique de l'ingénieur. Aujourd'hui, on poursuit notre mini-série « L'intelligence artificielle s'invite dans nos métiers ». Et cette fois, on va s'intéresser plus particulièrement à la réglementation de l'IA et aux enjeux d'éthique. Comment la loi européenne Artificial Intelligence Act encadre et impacte les développements à venir de l'IA, bloque-t-elle l'innovation comme s'en inquiétaient les grandes entreprises, comment l'IA est-elle encadrée aux États-Unis et en Chine, quelles sont les bonnes questions à se poser pour intégrer les enjeux d'éthique dans le développement de l'IA, et pour répondre à toutes ces questions, nous accueillons Jean-Gabriel Ganassia, informaticien et philosophe spécialisé dans l'intelligence artificielle et l'éthique à Sorbonne Université. Il est également membre du comité d'éthique du CNRS. Avant de parler de cette réglementation, dont l'accord a été conclu en décembre dernier, Jean-Gabriel Ganassia, pouvez-vous nous en expliquer le contexte ?
À l'issue de la constitution de la nouvelle équipe qui préside l'Union européenne, avec Ursula von der Leyen, et entre autres comme commissaire Thierry Breton, qui s'occupe plus particulièrement du numérique, il y a eu la volonté d'imprimer une marque singulière en réglant sur les technologies de l'information, sur les technologies du numérique. Ça a donné naissance à un nombre très important de règlements, ce qu'on appelle le Digital Service Act, qui a pour objet de faire en sorte que la loi commune s'impose sur l'espace numérique. En particulier, nous avons tous, et nous en sommes extrêmement fiers dans nos démocraties, une totale liberté d'expression, mais en même temps, cette liberté d'expression s'accompagne d'un certain nombre de restrictions. On n'a pas le droit de diffamer des personnes, on n'a pas le droit de faire l'apologie du terrorisme, on n'a pas le droit d'inciter à la haine, etc. Et donc, il faut que les réseaux sociaux imposent ces contraintes. Alors, c'est très difficile parce que jusqu'à présent, un journal, on pouvait lui imposer un certain nombre de contraintes parce que le directeur du journal était censé relire tous les articles qu'il publiait. Et s'il y avait un article qui violait un certain nombre de ces règles, il était pénalement responsable. Dans le cas des réseaux sociaux, c'est beaucoup plus difficile. Donc, c'est l'objet de ce Digital Service Act. Deuxième chose, le Digital Market Act, qui essaye de réguler le marché du numérique à l'échelle de l'Union européenne. Le Data Act, qui essaye de réguler la diffusion des données, en essayant d'encourager les échanges de données, si possible, bien sûr, sur l'ensemble du territoire européen. Et puis, la dernière chose, c'est la régulation de l'intelligence artificielle qu'on a appelée l'AI Act. Alors, cette régulation, donc, vous voyez, cette présidence de l'Union européenne a pris ses fonctions en décembre 2019. Vous voyez que en moins de 4 ans, il y a un nombre très conséquent de règlements extrêmement lourds qui ont été votés et qui ont été mis en service. Dans le cas du AI Act, qui est le dernier de ces règlements, on a eu un premier texte rédigé par l'Union européenne en juin 2022 qui a ensuite été transmis au Parlement européen. Lui-même a effectué un certain nombre d'amendements, il y a plus de 3000 amendements pour ce règlement. Et ensuite, ça a fait l'objet d'un vote qui a eu lieu en juin 2023. Et à l'issue de ce vote, le Conseil des ministres de l'Union européenne a été un peu en désaccord avec certains points, et en particulier avec des points qui portaient sur l'utilisation des grands modèles de langage. Et il y a eu une négociation qui a conduit à un accord en décembre 2023.
Et en quoi consiste plus précisément ce règlement ?
Donc l'idée, c'est de nous prémunir contre les dangers liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et à cette fin, l'idée, c'était d'introduire une notion qui est la notion de risque. Alors qu'est-ce que c'est qu'un risque ? Un risque, c'est l'éventualité d'un danger. L'idée, c'est de se demander, est-ce qu'on peut avoir une idée des dangers potentiels de l'intelligence artificielle ? Les membres de l'Union européenne, puis ensuite les parlementaires, ont décidé de catégoriser ces dangers en fonction, plus exactement les risques, en 4 catégories. Des risques dits inadmissibles, qui conduisent à des interdictions, des risques élevés, qui conduisent à une réglementation assez stricte et très contraignante, des risques modérés, qui exigent qu'il y ait une transparence extrêmement grande, mais avec une réglementation moins forte, et puis des risques faibles, qui, eux, ne font pas l'objet de réglementation, sauf des exigences d'information du consommateur, comme c'est le cas avec beaucoup de produits.
Pouvez-vous nous détailler un peu plus ces catégories de risques ?
Alors, la première catégorie de risques, ce sont ce qu'on appelle les risques inadmissibles. Et là, le texte donne trois catégories de risques inadmissibles. Ce qu'on appelle les techniques subliminales. Le deuxième, ce sont les systèmes de notation. Le troisième, c'est la biométrie en temps réel pour l'identification. Tout ça est conduit à des interdictions. Bien sûr, lorsqu'on les regarde comme ça, tout à fait juste, hein, parce que bien sûr, on a peur des techniques subliminales, hein, on se dit on va être convaincu comme ça, hein, par l'intelligence artificielle, on va être manipulé par les machines. Hein, de même, les systèmes de notation, on s'inquiète de ce qui se passe en Chine, on se dit on va avoir une forme de dictature qui va s'imposer. Hein, et puis, il en va de même pour l'identification en temps réel. Lorsqu'on regarde dans le détail, on se rend compte que ça pose un certain nombre de questions.
Alors, c'est quoi exactement ces techniques subliminales qu'encadre le règlement ?
C'est une notion qui est fictive. Le terme a été introduit en 1957 par un publiciste James Carey qui expliquait que lorsqu'on introduisait dans un film des messages, avec des images tous les 25e de seconde, ces messages ne parvenaient pas à notre conscience et pourtant, on est capable d'être convaincu par ces messages. Pour ça, il disait que lui-même avait fait une expérience. Si on mettait sur un film tous les 25e de seconde un message « buvez du coca, mangez du pop-corn », ben les ventes de coca augmentaient de 18% et les ventes de pop-corn de 50%. Alors tout le monde était très effrayé. Hein. On disait à l'époque « c'est de la persuasion clandestine ». Et puis, bien sûr, des psychologues ont essayé de reproduire ces expériences. Ils n'y sont pas parvenus, et jusqu'en 1962, ils ont acculé James Vicari à donner les résultats, et il a avoué qu'il n'avait jamais conduit ces expériences. Depuis, bien sûr, hein, les techniques subliminales relèvent totalement du fantasme. Ce qui est curieux, c'est qu'aujourd'hui, la Commission européenne reprend hein, ce terme pour expliquer que ça conduit à des interdictions. On interdit quelque chose qui n'existe pas, ce qui est assez surréaliste dans le principe. Alors, bien sûr, certains pourraient nous dire, c'est la manipulation, c'est la publicité, mais personne n'a songé aujourd'hui à interdire la publicité qui joue sur l'inconscient, on le sait bien. Hein. Donc, on a bien sûr des choses qui sont excessives.
Par contre, les systèmes de notation existent bel et bien.
Et bien sûr, on pense à ce qui se produit dans certaines cités, hein, en Chine, hein, où les techniques d'intelligence artificielle permettent de suivre les individus, et puis ensuite, à partir de ça, de leur donner des bons points ou des mauvais points, selon ce qu'ils font, s'ils traversent la rue au bon endroit ou pas au bon endroit, ou s'ils aident une vieille dame, auquel cas ils vont avoir des bons points. Tout ça nous effraie, bien sûr, hein, parce que c'est une surveillance permanente hein, de tous les individus dans tous leurs agissements. Mais, bien sûr, un système de notation n'est peut-être pas toujours aussi pernicieux. Alors, ça a conduit la communauté européenne a adopté un certain nombre d'exceptions pour des utilisations privées des systèmes de notation. Par exemple, les banques ont toujours le droit d'utiliser des systèmes de notation hein, où les compagnies de VTC permettent aux chauffeurs de noter leurs clients et aux clients de noter leurs chauffeurs. Donc, vous voyez, c'est une règle très générale, une interdiction, mais avec beaucoup d'exceptions. Les seuls qui ne peuvent pas exiger d'exceptions sont les États, parce qu'ils ne peuvent pas faire de lobbying hein, auprès des institutions européennes. Et ça conduit à exclure tous les systèmes de notation qui sont mis en œuvre par les États. Or, certains d'entre eux, s'ils sont bien gérés, peuvent être utiles. Vous voyez, par exemple, il y a un système de notation très classique, c'est le permis à points. C'est un système qui fait appel à de l'intelligence artificielle, puisque lorsqu'on vous flash sur l'autoroute, ce sont des techniques d'intelligence artificielle qui reconnaissent vos plaques d'immatriculation, hein, qui déterminent à partir de ça si vous êtes susceptible d'avoir une amende et un retrait de points. Donc ces systèmes automatiques sont en principe interdits par l'Union européenne. Puis, bien sûr, après, on peut aller un peu plus loin. Hein. Les systèmes de biométrie hein, en temps réel, hein, on voit que dans certains cas de figure, bien sûr, ils sont autorisés, bon, avec un certain nombre d'exceptions. En fait, tout ça fait l'objet de beaucoup de débats. Mais alors, à l'autre bout de la chaîne, vous voyez, parmi les systèmes à faible risque, ben, y a, par exemple, les filtres à spam qui peuvent, bien sûr, conduire à de la censure. Donc là, on nous dit que ça doit faire l'objet d'aucune exigence, alors ça pose un certain nombre de problèmes. Ou alors, on peut avoir d'autres choses. Hein, on dit les jeux vidéo, par exemple, c'est à faible risque. Hein, or, c'est pas tout à fait anodin, hein, ça produit des formes d'addiction. Puis enfin, le dernier point, c'est que cette réglementation, elle est figée à un moment et le monde de la technologie évolue. Et elle a du mal à prendre en compte le monde de la technologie. Et la preuve est donnée par le règlement lui-même qui a été rédigé la première version en juin 2022. ChatGPT apparaît en novembre 2022 et donc la première version du règlement n'a pas pris en considération. Le Parlement s'en est rendu compte Et il a imposé des réglementations extrêmement strictes sur ce qu'on appelait les modèles de fondation, c'est-à-dire les outils qui sont au cœur de ces IA génératives. Et ça a conduit, alors là, à une réglementation qui est beaucoup plus trop stricte, hein, et qui surpose des problèmes pour les industriels européens. Donc voilà tout ça, hein, pour dire que effectivement, hein, on a un règlement qui est extrêmement lourd, hein, et contraignant, hein, et donc qui est fondé sur cette notion de risque qui n'est pas toujours adaptée à la réalité de la technologie.
Et est-ce qu'avant ce règlement européen, chaque pays avait sa propre réglementation ?
Pour l'instant, il y avait assez peu de réglementations propres à chaque pays. Il y avait les réglementations générales, par exemple, sur les données, hein, mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas propre à l'intelligence artificielle, puisque tout ce qui relève des données personnelles faisait l'objet d'une réglementation. Qui plus est, avec le RGPD, cette réglementation est devenue européenne, mais il n'y avait pas, en réalité, en France en tout cas, de réglementation propre à l'intelligence artificielle jusqu'à présent. Donc c'est la raison pour laquelle ce règlement est devenu extrêmement important. Il y avait simplement un certain nombre d'inquiétudes et de préconisations, en particulier sur l'utilisation des caméras de surveillance, hein, dans le domaine public. Ça avait donc déjà fait l'objet de quelques arrêtés, mais ce n'était pas une réglementation générale sur l'intelligence artificielle. Et ça avait fait l'objet en même temps d'un certain nombre d'exceptions. Et on sait par exemple que pour les Jeux Olympiques, il a été décidé d'utiliser à titre expérimental les techniques de vidéosurveillance dites intelligentes, c'est-à-dire les techniques qui font appel à de l'intelligence artificielle pour déterminer les mouvements de foule, à condition toutefois que ces techniques ne conduisent pas à des reconnaissances de l'individu, il s'agit juste de reconnaître les mouvements de la masse en général. Donc, tout ça a fait l'objet de votes, mais sinon il n'y a pas de réglementation générale de l'intelligence artificielle, du moins en France, et je ne crois pas qu'il y en ait plus dans les autres pays européens. Il me semble que pour l'instant, ça correspond à des domaines spécifiques. Hein. Par exemple, vous voyez, dans un pays alors, qui n'est pas dans l'Union européenne, mais que l'on connaît bien, c'est en Norvège, il y a une interdiction de prendre en photo les personnes dans la rue. Au contraire, au Royaume-Uni, alors, qui n'est pas dans l'Union européenne, mais qui a été pendant un certain temps, il y avait une très grande tolérance. Et en France, il y a toute une discussion et un débat autour des caméras de surveillance.
On en a parlé un peu plus tôt avec les systèmes de notation pour la Chine. Pouvez-vous nous expliquer comment les États-Unis et la Chine ont encadré l'intelligence artificielle ?
Alors, dans le cas des États-Unis et de la Chine, l'encadrement de l'intelligence artificielle est très différent. Dans le cas des États-Unis, jusqu'à présent, il n'y avait pas d'encadrement. Jusqu'à juillet 2023, où le président Biden a commencé à s'inquiéter de l'utilisation des techniques d'intelligence artificielle, et donc il y a eu une petite réglementation qui a été imposée, mais qui n'est pas très contraignante, hein, mais qui en tout cas enjoint les différentes sociétés à utiliser l'intelligence artificielle pour le bien commun, hein, l'idée qu'on puisse avoir délibérément envie, hein, de faire du mal, hein, de contraindre les individus, de limiter la liberté d'expression, sont considérées de façon négative. Et d'autre part, il y a eu toujours à ce moment-là une réflexion sur les outils de génération automatique de texte et de génération automatique d'images, car ça peut conduire à fabriquer ce qu'on appelle des fake news, hein, ou des infox en français. C'est donc pour essayer de distinguer ce qui relève de cette fabrication de la réalité, les fabricants se sont engagés à effectuer ce qu'on appelle en français du tatouage, hein, ou en anglais watermarking, ou des filigranes, c'est-à-dire insérer dans la trame des images ou dans la trame du son des informations supplémentaires qui permettent de déceler l'origine de ces informations, en particulier de voir si ce sont des modèles de langage qui ont fabriqué ces images ou si elles sont vraiment prises avec des photographies. Donc tout ça, bien sûr, pourrait être extrêmement utile pour empêcher que notre monde soit submergé de fausses images et qu'on ne soit plus capable de distinguer entre le faux et le vrai. Si ce n'est que le problème, c'est que seuls les industriels américains, hein, se sont engagés à introduire ces filigranes à l'intérieur des productions des modèles génératifs. Or, il se peut que d'autres acteurs, par exemple des acteurs chinois ou des acteurs russes, génèrent des textes sans s'astreindre à ces limitations. Donc c'est le premier point, hein, c'est qu'aujourd'hui on vit dans une société mondialisée et que ça ne nous prémunit pas contre toutes les formes de désinformation. La deuxième chose, c'est que ce qui vaut pour les images et les textes, parce qu'il y a une très grande redondance d'informations, ce qui fait qu'on peut rajouter une information supplémentaire qui n'est pas perceptible par les individus, sur les images qui n'est pas perceptible à l'œil nu, ou sur les sons qui n'est pas perceptible à l'oreille, mais une machine peut détecter. Sur les textes, c'est beaucoup plus difficile parce que chaque petite transformation a un effet sur le sens. Et donc, bien sûr, si l'on essaye de faire ça, alors il y a des tentatives pour le faire, mais les résultats, bien sûr, sont tout à fait discutables, hein, parce que ça voudrait dire soit ce sont des petites contraintes qu'on rajoute à la génération de texte, mais à ce moment-là, quelqu'un d'habile serait capable de se jouer de ces contraintes et de supprimer les éléments d'information. Soit ça donne des textes qui ont une coloration très particulière. À ce moment-là, on se rend compte, bien sûr, que ce sont des textes engendrés, mais on n'est pas sûr que tous les acteurs vont s'astreindre à utiliser ça, d'autant plus que ça donne des textes de relativement mauvaise qualité. Dans le cas de la Chine, la politique est très différente parce qu'il y a effectivement des limitations qui ont été apportées à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Par exemple, peut-être vous vous souvenez, il y a quelques années, la Chine avait fait des expériences dans les écoles pour utiliser, avec de l'intelligence artificielle et des neurotechnologies, des outils qui permettaient de détecter automatiquement la concentration des élèves. Puis ils ont décidé d'interdire ce type de technologie parce que, disaient-ils, ça risque de donner une image négative de la technologie. Alors, ce qu'on souhaite, c'est que les jeunes générations aient une appétence pour les technologies. Mais de façon plus générale, le principe éthique sur lequel reposent les réflexions en Chine, c'est qu'il faut d'abord assurer la sécurité et d'autre part la cohésion. Le maître mot de l'éthique en Chine, c'est la notion d'harmonie. D'ailleurs, le système d'exploitation de Huawei, qui a remplacé le système Android, s'appelle Harmonie 2.0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une symbiose de la société. Et donc, pour la Chine, tout ce qui peut conduire à la cohésion sociale est vu de façon positive. En revanche, pour les Chinois, les libertés individuelles, ce qui est centré sur l'individu qui n'est pas fondu dans la société, est vu de façon négative. Donc ça conduit, bien sûr, à des perspectives éthiques qui sont extrêmement différentes de celles qui sont les nôtres. Et bien sûr, par là, à des lois qui sont très différentes, sans compter, bien sûr, que la Chine est un système très autoritaire. Donc vous voyez, il y a bien des préoccupations éthiques, qui sont au fondement d'un certain nombre de régulations, à la fois en Chine et aux États-Unis, mais elles sont d'ordre extrêmement différentes.
Pour revenir à l'Europe, vous nous avez parlé il y a quelques instants des entreprises inquiètes par cette réglementation. Est-ce qu'elle peut vraiment brider l'innovation ?
Alors, effectivement, beaucoup d'entreprises européennes s'inquiètent d'abord de la complexité des règlements qui sont introduits. Il faut bien voir que le AI Act, je crois que c'est quelque chose comme, alors je me souviens plus, c'est 117 ou 170 pages, mais en tout cas dans la version que j'avais, parce que ça a changé encore entre-temps. Donc, ce sont des règlements extrêmement lourds avec des règles très générales, très contraignantes, et puis des exceptions aux règles, et puis des exceptions aux exceptions. Ça veut dire qu'il faut des services juridiques extrêmement compétents qui maîtrisent parfaitement cette réglementation pour guider à travers le maquis réglementaire qui est présent. C'est extrêmement difficile. Vous voyez, pendant longtemps, on disait, nul n'est censé ignorer la loi. Mais bien sûr, cet axiome doit se doubler de la réalité, c'est que nul n'est capable de comprendre la loi, sauf peut-être des très grands spécialistes. Donc tout ça, bien sûr, va faire l'objet d'un certain nombre de contentieux extrêmement grands. Alors, pour des grandes sociétés, c'est possible, parce que ça fait partie d'un surcoût qui est admissible, mais pour des petites sociétés, c'est beaucoup plus difficile. Donc ça, c'est le premier point, c'est la complexité de tous ces règlements. Et ces règlements, de façon générale d'ailleurs, quelquefois loupent leur cible, c'est-à-dire qu'ils ont, par exemple, le Digital Service Act a pour objectif de faire en sorte que la loi commune s'applique sur le cyberespace. Au moment des attaques du Hamas contre Israël, le 7 octobre 2023, on s'est rendu compte que les réseaux sociaux ont diffusé de la propagande du Hamas qui faisait état des massacres qu'ils avaient commis. Normalement, vous savez que l'incitation à la haine, l'apologie du terrorisme, tout ça est totalement interdit. Or, des réseaux sociaux, et en particulier X, l'ancien Twitter, a diffusé ces informations. La communauté européenne, qui avait voté le Digital Service Act, s'en est émue, et elle a voulu poursuivre Twitter. Mais, bien sûr, Twitter a dit, ah ben oui, nous, c'est la liberté d'expression, et donc, il y a des débats entre eux, mais pour l'instant, ce règlement n'est pas arrivé à empêcher Twitter de faire la propagande du Hamas. Et qui plus est, ce règlement est très, très étrange, parce qu'il dit, seuls les réseaux sociaux qui ont plus de 45 millions d'abonnés, c'est-à-dire 10% de la population de la communauté européenne, sont astreints à respecter le règlement. Pourquoi ? Parce que ce règlement impose d'avoir un mécanisme qui permette à ce qu'on appelle les signaleurs de confiance d'indiquer que des contenus sont impropres, que des contenus posent un certain nombre de problèmes. Le réseau social est tenu de retirer ces contenus. Mais des opérateurs qui ont moins de 45 millions d'abonnés ne sont pas astreints à ces lois. Et par exemple, Telegram, qui a beaucoup d'utilisateurs, mais qui a très peu d'abonnés en Union européenne, a pu continuer à diffuser des informations et passer complètement sous le radar. Donc vous voyez, réglementation complexe, extrêmement lourde, réglementation inefficace. Alors, concernant l'intelligence artificielle, comme je l'ai dit tout à l'heure, et en particulier l'intelligence artificielle générative, vous avez effectivement des règlements, alors au début, qui n'existaient pas, et puis ensuite, au moment où le Parlement européen s'est saisi de la loi, et comme il y avait eu ChatGPT en urgence, on a rédigé un certain nombre de textes faits par des personnes qui n'étaient certainement pas très compétentes en intelligence artificielle, puis avec aussi, très souvent, comme cela arrive, un pouvoir d'influence des grands acteurs de l'Internet qui peuvent être ravis, bien sûr, d'empêcher les Européens de se développer là-dessus. Effectivement, on a des contraintes extrêmement fortes sur les performances de ce qu'on appelle les modèles de fondation, c'est-à-dire les grands modèles qui sont à l'origine des grands modèles de langage ou des systèmes d'IA générative. Et donc, si on applique strictement ces règles, ça va pénaliser considérablement les industries européennes. C'est d'ailleurs, bien sûr, la raison pour laquelle le Conseil des ministres était opposé à cela. Alors, il semblerait qu'il y a eu des négociations, mais bien sûr, le résultat est d'une telle complexité, et nous ne le connaissons depuis si peu de temps que j'aurais du mal à dire si c'est toujours le cas, mais en tout cas, ça fait partie des inquiétudes que l'on peut avoir.
Alors, depuis le début de cette série sur l'intelligence artificielle, nous parlons d'intégration de l'éthique dès son développement. Selon vous, quelles seraient les bonnes questions à se poser avant de se lancer dans l'IA ?
Est-ce qu'il faut se poser des questions avant de se lancer dans l'IA ? Moi, je dirais plutôt qu'il faut, une fois que on a une certaine maîtrise des techniques d'intelligence artificielle, se demander quelles sont les applications que l'on va développer. Donc, vous voyez, c'est pas antérieur à la maîtrise de l'intelligence artificielle, mais c'est plutôt antérieure à la mise en œuvre de projets qui utilisent de l'intelligence artificielle. Et à ce moment-là, je crois que c'est pas tant des questions générales et abstraites qu'on doit se poser, mais sur chaque projet, se demander quelles peuvent être les conséquences et les dérives d'utilisation du système. Et pour ça, moi, j'ai, avec l'expérience que j'ai acquise dans ce domaine depuis un certain nombre d'années, l'idée qu'il y a un dispositif, une méthodologie qui, à mon sens, a quatre points. Le premier, c'est lorsque une entreprise ou une institution lance un projet d'intelligence artificielle, sur chaque projet, qu'elle se demande effectivement à quoi ça servit, quelle est la finalité du projet, éventuellement qu'elle réunisse un comité d'éthique avec des personnalités extérieures et des personnalités intérieures pour se dire, ben voilà, qu'est-ce que sont les dérives potentielles, quels sont les dangers liés à l'utilisation de ces technologies. Mais ensuite, bien sûr, une fois qu'on a réfléchi à ça, il faut retraduire ces inquiétudes et se demander quelles sont les contraintes que l'on va s'imposer pour éviter les mauvaises utilisations. Par exemple, si on craint que les données personnelles soient centralisées et qu'elles soient utilisées à mauvais escient, ben on peut, dans certains cas, s'obliger à avoir un traitement local des données personnelles sur un dispositif, ce qui va limiter les risques. Et ça veut dire qu'on va traduire les exigences éthiques en contraintes technologiques. Et ensuite, il faut, à l'intérieur de l'entreprise, qu'il y ait des ingénieurs qui soient capables de mettre en œuvre ces contraintes que l'on s'est imposées pour respecter un certain nombre de règles. Alors, ça peut être lié à la protection des données personnelles, ça peut être même l'architecture qui impose, lorsqu'il y a une prise de décision, qu'il y a une validation humaine. Et donc, ça, vous voyez, ça veut dire que tout ça doit être réalisé à l'intérieur de l'entreprise elle-même, avec des ingénieurs qui ont imposé un certain nombre de contraintes. Alors ensuite, je pense que le troisième point, c'est que si on veut inspirer confiance à la population, il faut que lorsque l'entreprise prétend avoir un certain nombre de limitations à son système, qui permettent de répondre à un certain nombre de questions d'éthique, de respecter un certain nombre de critères, eh bien, il faut certainement avoir une certification qui nous assure. Alors, on ne certifie pas un système dans son ensemble, mais on peut certifier un système en disant, voilà, telle propriété, par exemple, ce système ne délocalise pas les données personnelles et donc il n'y a pas de risque de fuite de données personnelles dans ce système. Ou au contraire, tel autre système, il ne peut pas prendre de décision sans qu'il y ait un être humain qui valide la prise de décision. Donc ça, c'est le troisième point. Je pense qu'il doit y avoir la possibilité d'une certification qui doit être fournie par un organisme qui est indépendant de la société pour que le grand public soit tout à fait convaincu. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement celui qui vous vend, qui prétend que son système a ses propriétés, mais c'est un organisme totalement indépendant. Et puis le quatrième qui me semble extrêmement important, c'est que des technologies d'intelligence artificielle, des outils qui utilisent de l'intelligence artificielle peuvent avec le temps être détournés de leur finalité initiale. Et je crois qu'il faut qu'il y ait une supervision, une surveillance des systèmes pour s'assurer, bien sûr, qu'il n'y a pas de dérive dans l'utilisation de ces technologies. Donc voilà, c'est cette méthodologie, je crois, en quatre points qui me semble extrêmement importante si on veut intégrer la réflexion éthique dans la mise en œuvre d'outils d'intelligence artificielle et si on veut être sûr que la société puisse avoir confiance dans ces outils. Je crois que les questions auxquelles répondent l'utilisation des techniques d'intelligence artificielle soient claires pour tout le monde et que les résultats obtenus soient bien connus, qu'il y ait une forme de transparence, qu'on sache ce à quoi ça sert. Sinon, on risque d'avoir, comme c'est un peu trop souvent le cas, des craintes qui ne sont pas toujours justifiées, mais qui peuvent l'être quelquefois. Et donc, il faut essayer de dissiper l'ensemble de ces inquiétudes.
Aussi, je me demandais, j'ai vu pas mal de formations sur les enjeux d'éthique, mais est-ce qu'ils sont enseignés aujourd'hui dans les cursus d'informatique, par exemple, ou de robotique ?
Il faut peut-être avoir un regard un tout petit peu rétrospectif. Moi, lorsque j'ai commencé, j'ose pas dire, j'ai commencé à faire de l'intelligence artificielle il y a très longtemps, il y a 44 ans. À l'époque, on était des mathématiciens et on faisait des choses dans notre coin et on n'avait aucune idée des conséquences éthiques de l'utilisation de cette technologie. Et la première fois que j'en ai entendu parler, c'est parce que j'étais invité à Alexandrie en Égypte à parler de questions d'éthique des sciences. Et je me disais, mais pourquoi on m'a invité ? C'était il y a 22 ans, en 2002. Et à l'époque, je pensais que les questions d'éthique des sciences, elles se posaient pour les médecins, pour les biologistes, pour les physiciens avec l'atome, mais qu'elles ne se posaient pas pour nous. Alors j'y suis quand même allé, et ensuite, j'ai quand même réfléchi à ces questions-là. Et progressivement, je me suis dit qu'effectivement, le numérique transformait la société, et que ces transformations pouvaient avoir des effets extrêmement problématiques et extrêmement délétères. Alors, pourquoi je dis ça ? C'est que, donc, ce qui, vous voyez, est né il y a une quinzaine d'années, puisqu'on a pris conscience de tout ça, vous voyez, moi je vous dis il y a un peu plus de 20 ans, mais en fait, la vraie prise de conscience, c'est il y a une quinzaine d'années, et puis ça s'est développé de plus en plus ces derniers temps. Donc, ça explique qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignements. Il commence à en avoir, des grandes écoles, comme Central, des formations d'ingénieurs, par exemple, Polytech sur Sorbonne Université, commence à avoir quelques cours pour les cursus d'ingénieurs en informatique ou en robotique. Et je pense que c'est extrêmement important de poursuivre. Toute la difficulté, c'est qu'il ne faudrait pas que l'éthique, ce soit simplement des règles de morale. Ce serait extrêmement ennuyeux. Je crois qu'il faut que l'enseignement d'éthique passe par l'exemple, par la réflexion sur un certain nombre de cas, par l'interrogation. Parce que, bien sûr, ce qu'il faut, ce n'est pas simplement enseigner des recettes, c'est se demander comment est-ce qu'on va faire dans sa vie d'ingénieur ? Parce que oui, la difficulté avec les technologies, à la différence de la médecine, où le rapport entre le médecin et le malade est constant, vous voyez, il n'y a pas eu beaucoup de changements entre la médecine hippocratique et aujourd'hui. Les grandes règles sont toujours présentes, même si bien sûr les techniques médicales ont beaucoup évolué. Mais dans le cas de la technologie, les choses changent et elles changent tellement que nous sommes surpris par ce qui va advenir. Et donc, il faut se préparer à être surpris. Et donc, il faut avoir l'habitude de réfléchir pour anticiper les questions qui peuvent se poser. Et c'est ça, je crois, qu'il faut essayer d'enseigner aux jeunes étudiants dans les formations technologiques. Et je pense que ça n'est pas encore totalement fait, mais ça commence à être fait. Et j'espère que dans le futur, ça va être de plus en plus fait.
Eh bien, merci beaucoup, Jean-Gabriel Ganassia. J'ai une toute dernière question avant de conclure ce troisième et dernier épisode de la série. Auriez-vous des lectures à nous conseiller ?
J'ai écrit un livre il y a 2 ans qui s'appelle Servitude virtuelle, qui a été publié aux éditions du Seuil, et que je conseille vivement sur ces questions d'éthique, puisque c'était un peu une réflexion sur le sujet. Sinon, il y a eu un livre qui a été publié il y a quelques années, très intéressant, une mathématicienne américaine, Weapon of Mass Destruction, qui montre l'effet délétère que peuvent avoir les techniques d'apprentissage massif sur le tissu social aux États-Unis. Vous pouvez aussi regarder les chroniques éthiques que je rédige. Et puis enfin, si vous avez très sommeil, il y a bien sûr tous ces règlements. Alors, vous pouvez bien sûr essayer de les lire parce qu'ils sont extrêmement soporifiques et ennuyeux. Hein. Et vous, donc, vous aurez une idée de ce qu'il y a. Mais je crois que, de façon plus sérieuse, hein, il faut vraiment essayer de prendre un peu de distance par rapport à ces règlements et bien comprendre que l'éthique, ça n'est pas la réglementation, qu'il y a une distance entre le droit et la morale. Ça ne veut pas dire que le droit soit opposé à la morale, ça veut dire que la morale et l'éthique sont antérieurs au droit et que le droit, au moment où il s'élabore, repose sur un certain nombre de réflexions morales, mais il y a aussi des considérations politiques à l'établissement du droit, qui est l'objet de délibérations hein, dans les parlements. Et ensuite, hein, il y a aussi une réflexion éthique au moment de l'application du droit. C'est-à-dire que la règle, normalement, est toujours générale, et toute la question, c'est comment appliquer une règle générale sur le cas particulier. Et c'est là où l'éthique intervient. Les magistrats, par exemple, sont tout à fait habitués à cela. Donc, il n'y a pas de réduction du droit à l'éthique, et malheureusement, bien sûr, hein, ce qui a été fait par les réglementations, c'est que il y a l'idée de faire une réglementation, alors d'abord qui essaye de s'appliquer à tous les cas particuliers, donc ça veut dire qu'elle est très compliquée, hein, c'est pour ça qu'elle est aussi longue, et en même temps, bien sûr, elle est toujours, puisque c'est une règle, un tout petit peu trop générale, et surtout, elle est faite à partir de craintes qui sont celles que nous avons au regard de l'histoire passée. Mais ce qui va se produire dans le futur avec la technologie nous surprend toujours. Je vais donner un exemple. Les réseaux sociaux. Lorsque c'est apparu, ça nous paraissait extrêmement sympathique. Des jeunes universitaires américains qui essayaient de mettre ensemble tout un tas de personnes, de copains, même si on a un tout petit peu oublié hein, qu'à l'origine du premier réseau social hein, et de Facebook, hein, il y avait l'idée de noter les filles, ce qui est quand même pas très sympathique. Mais donc, il y avait quand même cette idée qui paraissait un tout petit peu généreuse. Et puis on s'est rendu compte très rapidement que ça pouvait avoir un effet désastreux sur l'ensemble du tissu social, que ça pouvait transformer les relations politiques, que ça pouvait s'imposer au-delà des médias, que ça pouvait poser beaucoup de problèmes. Vous voyez, tout ça nous surprend. Et c'est très souvent le cas. La technologie nous déroute parce qu'elle n'est pas simplement, et en particulier les technologies, des accroissements de performance. C'est aussi hein, des modes d'appropriation qui, eux, bah, sont tout à fait étonnants et surprenants et qu'on a du mal à anticiper. Et donc, la réglementation, elle ne peut pas deviner ce que vont être ces modes d'anticipation.
Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de Cogitons Sciences, le podcast qui décrypte les enjeux des sciences. Un grand merci à notre invité, Jean-Gabriel Ganassia. C'était le troisième et dernier épisode sur notre mini-série dédiée à l'intelligence artificielle. Vous retrouverez toutes les ressources citées dans la description de cet épisode ou sur la page web du magazine d'actualité de Technique de l'Ingénieur. Cogitons Sciences est un podcast produit par Technique de l'Ingénieur. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Marie-Caroline Loriquet. Et pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme d'écoute préférée. Et moi, je vous donne rendez-vous en mai pour une nouvelle mini-série. À bientôt.